Nous allons lire deux textes ce matin. Le premier dans l'Épître de Paul aux Romains. Et le deuxième texte, on l'a déjà chanté en partie, ce sera le psaume 139. Romains chapitre 8, verset 13 à 17.
Est-ce que tu gardes le Thomas?
Je l'enlève.
Ah oui, oui, oui.
Merci.
T'es derrière ton écran.
L'écran protège. Enfin, vous protège-vous d'ailleurs, pas moi, mais vous protège-vous. Bon, si vous aimez prendre des risques. Romains 8, 14 à 17.
Merci.
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et le psaume 59. Chef de cœur, psaume de David. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Où pourrais-je aller ? Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle ? Où pourrais-je fuir pour t'échapper ? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis « au moins les ténèbres me submergeront », la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes. Je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas de dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement, ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Le texte de Paul que nous avons lu en premier souligne que nous avons reçu une nouvelle identité par le don de l'adoption. Nous sommes devenus fils, filles du Père Céleste. C'est un aspect de l'expérience du salut. L'enracinement de cette idée, de cette réalité en nous a des conséquences très profondes dans la vie de foi. Et c'est sur ce point-là que portera la prédication. Il ne faut pas confondre l'adoption dont Dieu nous fait bénéficier avec l'adoption d'enfants telle que nous la connaissons dans notre monde. Dans le cas d'adoption d'enfants, c'est généralement un couple sans aucun lien antérieur avec les enfants qui adopte un ou plusieurs orphelins. Dans le cas de Dieu, nous sommes déjà en lien avec lui, car il est notre Créateur à tous. Car nous sommes tous, aussi surprenant que ça peut nous paraître, nous sommes tous nés du désir de Dieu. Le psaume 139 que nous avons lu met ça en évidence dans l'Ancien Testament. Et comme dit le psaume, ça nous dépasse complètement. Pour toutes sortes de raisons, mais une des raisons, c'est que nous, qui sommes en lien profond avec quelques dizaines de personnes au mieux, nous sommes complètement perdus devant cette capacité prodigieuse de Dieu d'être en relation proche avec chaque être humain. C'est un truc que je ne peux même pas imaginer. Mais il faut quand même prendre en compte. Dieu est proche de chaque être humain, au moins en tant que créateur. Il y a un certain texte qui dit ça, notamment dans les psaumes, mais on n'a pas le temps de tous les lire. Ça veut dire que l'adoption dont parle l'apôtre Paul n'est pas à confondre avec l'adoption que nous connaissons. L'adoption, et c'est le point fondamental, nous donne une nouvelle identité. Enfant du Père. Une nouvelle identité. Et cette identité est source d'une nouvelle manière de vivre face à Dieu, face aux autres, face à l'avenir. C'est intéressant parce que quand on pense à la vie de disciple et à la vie nouvelle que Jésus veut pour nous, on pense d'abord à quel texte ? Allez, on pense d'abord à quel texte ? Où Jésus donne son programme pour les disciples ? Le sermon sur la montagne, avec la béatitude, ouais, mais le sermon sur la montagne d'une manière générale, ok ? Vous avez, après les béatitudes, chapitre 5 est centré en grande partie sur les relations avec les autres, puis chapitre 6 en partie sur les relations avec Dieu, et continue comme ça. Quand on pense à vie de disciple, spontanément on pense à sermon sur la montagne. Eh bien, ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que dans les trois chapitres du sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, savez-vous combien de fois on trouve le mot Père ? Bonjour, c'est un peu endormi, je vais vous faire la vie un peu. Combien de fois on trouve le mot Père dans trois chapitres du sermon sur la montagne ? 16 fois. 16 fois. Sur à peu près 100 000 versets. Ok ? 16 fois. Et 10 fois, il est question de votre père. Votre père, c'est, vous vous rappelez ? 5 fois, c'est ton père. Quand tu pries, éloigne-toi, mets-toi à l'écart de tout ton père, c'est. Et une fois, ça, on connaît tous, c'est notre père, dans la prière. Ça veut dire que sur les 16 fois, 0 fois, il est question de Dieu comme père de Jésus, et toujours père des disciples. Dans ce passage, ça montre la montagne. Et donc, il y a un lien étroit entre l'identité de fils et de fille du Père Céleste et la manière de vivre que Jésus enseigne. Et essayer de vivre une vie de disciple sans enraciner une identité de fils ou de fille du Père Céleste, c'est marcher sur une jambe. Il y a trois textes, notamment dans le sermon sur la montagne, trois courts textes qui nous soulignent ça. Le premier, est très intéressant, parce que c'est la partie du sermon sur la montagne la plus choquante. Matthieu 5, 44, 45. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimer ses ennemis, c'est pas de l'héroïsme spirituel, c'est la logique de l'identité d'être enfant de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais dans le texte, Jésus dit, c'est la logique de l'identité qu'on a. Et c'est important de le voir, pas seulement de le voir sous la forme de l'héroïsme d'un truc trop compliqué, mais aussi de le voir sous cet angle-là. Deuxième texte, et un par chapitre, donc on va mettre ceci cette fois-ci. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin. Si tu ne crois pas ça, ça va être difficile de ne pas stresser, disons, à l'avenir. Oui ? Mais si tu crois ça, tu peux commencer à travailler ton stress et à apprivoiser ton stress devant l'avenir. Mais c'est un travail. Il ne suffit pas de lire « Oui, Dieu m'a adopté pour que ça marche ». Il faut que cette identité d'enfant de Dieu soit une identité qui s'inscrit en profondeur dans nos vies. Et ce n'est pas si simple. Troisième texte. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ok? Et donc, la prière est directement connotée à la perception que nous avons de Dieu comme Père. Si nous pensons que Dieu est un type pénible, qu'il faut casser les pieds pour en faire en sorte quelque chose, c'est différent que si on pense que c'est notre Père Céleste et que... Ça ne veut pas dire que parce que c'est notre Père Céleste, il va tout nous donner juste parce qu'on le demande, mais c'est notre histoire. Mais notre prière est directement liée à la façon dont nous percevons celui à qui nous demandons des choses dans la prière. Et si nous pensons que c'est le Père Céleste, si nous pensons qu'il nous aime, si nous avons enraciné le fait qu'il nous aime, même si c'est jamais fini ce truc, eh bien ça change quand même notre manière de prier, et ça change de façon importante même. Donc voilà, notre identité, la perception que nous avons de notre identité spirituelle, influence directement notre manière de vivre. Notre manière de vivre. Autre remarque, l'identité que nous recevons s'ajoute à toutes les autres. Sinon, ce serait trop simple. Nous avons déjà toutes sortes d'identités. Et d'un coup, cette identité s'ajoute à toutes les autres. Et elle a vocation à devenir la plus importante, l'identité la plus importante de notre vie. Nous avons d'autres identités. Eh bien, nous avons des parents qui nous avons hérité un certain nombre de choses dans toutes sortes de domaines. Nous avons grandi dans une famille, au sens large, dans une culture. Les Vosges, c'est pas exactement pareil qu'à Marseille ou même qu'à Strasbourg. Nous avons grandi, pour certains, dans une famille spirituelle. Nous avons acquis au fil du temps des statuts professionnels, par exemple, des rôles dans la société. Nous avons accumulé des expériences personnelles, bonnes et moins bonnes, qui nous construisent aussi, qui construisent notre manière d'être avec les autres et de nous percevoir nous-mêmes. Nous avons développé une image de nous-mêmes au fil du temps. Nous traînons aussi un certain nombre de blessures de notre histoire. Bref, toutes ces choses-là constituent des aspects de l'identité qui est la nôtre. Ce sont des formes d'identité. Elles influencent notre manière de vivre, parfois de façon très importante. Nous agissons et pensons souvent en référence à toutes ces identités, même quand on ne s'en rend pas compte. Et la nouvelle identité d'enfant du Père interpelle et remet en cause, en partie, ses anciennes identités et remet en question les attitudes, les comportements qui nous viennent de ces identités. Ce n'est pas forcément que de la morale, hein, au sens strict. Quand je suis arrivé à Strasbourg, une étudiante est venue me voir à l'église. Et elle m'a dit, voilà, j'ai un copain, elle était haïtienne, elle dit, j'ai un copain qui est haïtien aussi. On veut se marier. Mais mon père n'est pas d'accord. Et pour elle, la parole du père, sa culture, la parole du père, c'est pas rien. Aujourd'hui, on s'en fout. Ça manque de jeunes ici. Dommage, j'ai une chose à leur dire. Mais pour elle, c'était extrêmement stressant. Son père n'était pas d'accord. Pourquoi son père n'était pas d'accord? Parce qu'elle, sa maman était blanche, était allemande, et donc, elle avait la peau très claire. Et son ami avait la peau très sombre. Son ami, qui était un type super, il était membre de l'église, quand il était dans l'église, il était membre de l'église, il terminait des études d'ingénieur, un type d'une profondeur remarquable, d'une maturité. Même dans son stage, il dirigeait déjà des équipes parce qu'ils avaient compris dans son boulot qu'il avait la carrière pour. Vraiment un type sympa, à la fois très sympa, mais aussi très, très, très profond. Et une personnalité très affirmée et très positive. Donc franchement, et alors il me demandait, est-ce que j'ai le droit de ne pas faire ce que mon père me dit? Nous, ça nous fait rire, hein, parce qu'on n'est pas là-dedans, mais pour elle, c'était un vrai stress. Et on a cheminé quelques semaines autour de cette question, jusqu'à ce qu'effectivement, elle décide de se marier avec ce garçon. Et le mariage était un peu sportif, mais le père était là, donc c'était assez... Mais ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est un cheminement pas évident, voilà, on a des identités. Alors ça vous paraît banal, mais nous sommes tous habités par des trucs que nous faisons parce qu'on nous a mis en tête. Ça n'a pas forcément tellement de sens que ça, mais en tout cas pas dans tous les contextes. Mais c'est comme ça, on les a dans notre tête. Et pareil, en général, on n'a même pas forcément conscience. Autre aspect, quand des personnes se convertissent, d'autres églises, ou pas d'église du tout, et rejoignent une église mennonite. J'ai découvert ça à Bacara, à l'Université de Bacara. Une des premières choses à faire, c'est d'expliquer que le pasteur, c'est pas juste un prêtre qui a le droit de se marier. Et que le ministère, c'est très différent, la vision du ministère est très différente. Dans le protestantisme en général, et chez lui, parfois un peu plus. Parce que sinon, de par leur éducation, de par leur culture, ils projettent des choses qui sont fausses, mais c'est important d'en parler. D'autant plus que... souvent, il y a un côté rassurant du prêtre qui fait tout et qui sait, par rapport à une équipe de responsables où c'est plus compliqué. Et où personne n'a l'autorité, le lien direct, etc. Donc il y a aussi du stress autour de ça, c'est pas seulement de l'idée, c'est pas seulement une question de conception, c'est aussi... parce que nos idées sont articulées à notre psychologie et à nos émotions, donc c'est parfois pas simple. Et cette identité des fils du Père, c'est un troisième élément important, elle percute nos identités de personnes blessées, blessantes. Je reviendrai là-dessus sur le côté guérissant que peut avoir l'identité de fils du Père. Et donc, cette identité s'ajoute à toutes les autres, l'identité d'enfant du Père, et à la vocation à devenir la plus importante. Dieu, la personne de Dieu, son projet pour nous, est appelé à devenir la personne la plus importante de notre vie. Et il y a une logique à ça, parce que notre Créateur est notre Sauveur. Le Créateur-Sauveur est la personne réellement la plus fondamentale de notre existence. Plus fondamentale que nos parents sur la chair. Le Créateur qui nous a voulu et qu'on a chanté au premier chant. Et dans la réalité, effectivement, même si on ne perçoit pas, la personne la plus fondamentale de notre vie. Il nous a voulu, il nous accompagne dans son amour. Il s'est intéressé à notre vie avant et il s'intéresse à notre vie après notre conversion. C'est une réalité. Et nous vivons à côté de nos pompes aussi longtemps qu'on n'a pas compris cette réalité. Et donc nous sommes appelés à développer, parce que c'est pas juste parce que c'est arrivé qu'on se convertisse que c'est déjà en place, nous sommes appelés à développer une relation prioritaire avec Dieu. Et c'est assez clair pour moi aujourd'hui, ça a été pas tellement il y a quelques années, que ça veut dire développer une relation avec chaque personne de la Trinité. Devenir père, fils du Père Céleste, c'est apprendre à boire à la source de la vie. Dieu est une source de vie. Mais nous avons des tas d'autres sources de vie autour de nous. Enfin, des tas d'autres sources de vie, je ne suis pas sûr. Des tas d'autres sources auxquelles nous buvons. Oui ? Vous lisez le journal, vous regardez la télé, vous avez des amis, vous parlez avec eux, vous avez un boulot. Il y a des tas de choses qui sont là, qui alimentent notre vie et qui parfois prétendent nous dire comment vivre. Et qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il faut croire et qu'est-ce qu'il faut voir et choisir. Nous avons besoin d'apprendre que la vraie source de vie, de le découvrir, pas seulement de l'avoir lu quelque part, nous avons besoin d'apprendre que la source de vie, c'est Dieu. Et pouvoir dire, comme le psaume 36, verset 10, c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Ça, c'est un verset, je vous conseille de le retenir. C'est aussi apprendre à vivre en nous éclairant de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement, ni même d'abord, une suite de commandements, elle est un éclairage global sur la vie humaine. Dire que nous sommes des créatures merveilleuses, comme nous l'avons chanté, ça donne un éclairage fondamental sur la vie humaine, sur nous-mêmes. L'Écriture nous aide à comprendre Dieu, à nous comprendre dans notre expérience dans ce monde, dans nos relations avec les autres. Et elle peut éclairer nos choix de vie, et nous pouvons découvrir, comme le psaume toujours, et le psaume 119, qu'elle est vraiment lumière sur le chemin. Ou toujours comme le psaume 36, verset 10, « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ça sèche. Ça, c'est un verset, ça me fait vibrer chaque fois que je le lis. « Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ton éclairage, nous voyons clair. » Donc c'est une identité qui s'installe. Elle nous est donnée, mais en même temps, il faut qu'elle devienne une réalité dans nos vies. Donc c'est à nous de l'enraciner, de travailler à l'enraciner. Et pour moi, c'est un des aspects principaux de la prière, c'est d'enraciner cette identité. C'est pour ça que pour qu'elle soit enracinée, il faut suivre ce que Jésus dit, c'est-à-dire aller à un endroit où il n'y a personne, on est tout seul, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de trucs qui nous perturbent, et passer du temps devant Dieu le Père. Sans être influencé par qui que ce soit d'autre. Cette identité, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile à s'inscrire en nous. Et parce que nous avons d'autres choses qui sont en nous, d'autres messages, d'autres pensées, d'autres émotions. Et peut-être que l'aspect principal du combat spirituel, pour ceux qui n'aiment pas trop cette expression, ça pourrait être justement de choisir qui on va écouter. Il y a des gens, à cause de leur éducation, et j'en ai rencontré quelques-uns, y compris dans les églises, qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Ils se sentent nuls. En général, c'est parce qu'un père, une mère, n'a pas été très très... Être une personne plutôt négative. Et il y a des textes qui nous disent « Mais Dieu t'aime parce que tu es une créature merveilleuse. » Qui on va écouter ? C'est plus compliqué qu'un débat où tu peux choisir l'opinion de l'un contre l'autre. Comment on va laisser une parole, on va laisser la parole de Dieu percuter, cadrer et éliminer des paroles fausses en nous. Comment on va faire ça? Ça, c'est un aspect central du combat spirituel. Donc cette identité se reçoit dans un terrain compliqué parfois, en tout cas compliqué dans certains éléments de ce terme. Et il y a un vrai combat pour enraciner cela, pour accueillir cette parole, alors qu'elle contredit d'autres paroles, d'autres choses que nous avons. Pour moi, c'est le cœur même de la vie de prière personnelle que ce combat spirituel. On accueille Dieu tel qu'il est, alors que c'est compliqué parce que d'autres choses sont en nous. Cette identité, elle se construit aussi au fur et à mesure que nous vivons en cohérence avec elle. Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez fils. D'accord ? On l'est déjà avant, puisqu'on s'est converti. Mais pour que cette réalité devienne plus effective dans nos vies, eh bien, faire ce que Dieu nous demande, faire ce que Jésus nous demande, inscrit plus profondément cette réalité. Et il y a ce qu'on appelle un cercle vertueux. Si je fais ce que Dieu me demande, mon identité de fils est fortifiée, mon identité de fils fortifiée m'aidera à mieux faire ce que Jésus me demande, etc. etc. Vous voyez le cercle vertueux. L'agir n'est pas indépendant du tout de notre identité. Notre agir contredit notre identité ou renforce notre identité. Savoir qui je suis devant Dieu m'aide à accepter qui je suis. Avec mes forces, mes faiblesses, mon caractère, mes dons, mes héritages plus ou moins agréables à gérer. Et savoir que je suis enfant du Père est la meilleure base pour travailler sur qui je suis. Et pour grandir. C'est aussi une identité qui aide à faire face aux situations, enraciner cette identité fortifie l'être intérieur et aide à faire face aux différentes situations. Enraciner cette identité nous aide à être moins dépendants du regard des autres et en même temps à mieux les aimer. Donc c'est pas un isolement vis-à-vis des autres, mais c'est un autre type de relation. Être moins dépendant du regard des autres. Plus Dieu est important pour moi, plus je comprends sa grâce et son amour, plus je suis libre, mais pas indifférent. Libre, mais pas indifférent du regard des autres. Et ça m'aide à faire face plutôt que de fuir ou de rompre des relations compliquées. Avant dernier point, qui est délicat, vu que je crois que c'est important de l'aborder, cette identité, elle a vocation à être guérissante. Non pas de tout guérir, non pas de tout régler, mais de nous aider à marcher sur un chemin de guérison. Et je voudrais, pour cela, prendre un texte, toujours dans les psaumes. Les psaumes nous parlent de vie spirituelle, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer. Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, moi ton serviteur, tu es mon secours. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Dieu m'aime et m'accueille comme je suis, et cela m'aide à surmonter des expériences négatives, parfois très profondes, d'abandon, de rejet ou de haine. J'ai prêché il n'y a pas très longtemps à Strasbourg, sur un autre thème d'ailleurs, et puis il y a une femme qui a plus de 80 ans qui est venue me voir, et on parlait d'amour, de Dieu. J'ai dit « Dieu t'aime ». Elle me dit « Oui, je sais, mais ça ne rentre pas dans ma tête ». Que Dieu soit mon père, parce que quand j'avais 3 ans, mon père est mort. Ça ne rentre pas dans ma tête. Ça ne rentre pas dans mon cœur. Et parce que quand j'ai lu ces versets les premières fois que je me suis converti, on me les a balancés comme des affirmations à croire et pas du tout dans un aspect pastoral. Donc c'est un autre problème. Les versets ne lui parlaient plus aussi à cause de ça. Donc j'espère pouvoir reparler de ça avec elle, mais elle sait que le chemin est là, mais c'est compliqué parce qu'il y a d'autres messages, d'autres expériences, notamment cette expérience d'abandon, même si le père y est pour rien évidemment, mais l'enfant se sent abandonné. Et de l'abandon au rejet, il n'y a pas loin. Et donc on se construit des choses qui, plus elles sont là tôt, plus elles sont compliquées à être sorties. Un autre ami, les amis bizarres, excusez-moi, mais me téléphone et me dit « Mon père est un pédophile. Et son père a reconnu qu'il avait abusé de jeunes filles qui n'étaient pas majeures à l'époque. C'est une histoire, c'est passé très longtemps, mais c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et je lui ai dit, dans le cheminement, on a beaucoup parlé de ça, puis à un moment je lui ai dit, tu sais, heureusement qu'on a un autre père. Un autre père que celui-là. Et qu'on peut construire une relation et une identité sur ce père-là, et se défaire de ce que la relation avec le père sans la chair peut être toxique. Je vous dis ça en 3 secondes, mais on a mis je ne sais pas combien d'heures de parole pour travailler ça. Hein. C'était compliqué. L'identité de père, l'identité du père, d'être enfant du Père Céleste, si on l'enracine suffisamment, a un effet bienfaisant. Ça ne va pas supprimer l'expérience négative, ça ne va pas faire comme si on ne l'avait pas vécu, mais ça va mettre autre chose à côté qui va nous aider à vivre notre réalité humaine et à avancer un peu sur un chemin de guérison. Deux guérisons. Nous, ce verset du psaume que j'aime beaucoup, « Mon père, ma mère m'abandonne, mais le Seigneur me recueillera. » Bon, je ne cite pas trop parce que j'ai oublié des mouchoirs. L'amour de Dieu a quelque chose de guérissant, mais il faut l'entretenir dans nos vies, l'enraciner dans nos vies. La Bible propose plusieurs choses pour cela, pour enraciner l'amour de Dieu dans nos vies. La première, c'est de se souvenir. C'est de se souvenir. Et nous avons tout intérêt à relire nos vies pour voir à quel point Dieu était présent. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi je vois rarement Dieu en fait. Mais si je regarde 6 mois derrière, je vois tout ce qui s'est passé en 6 mois. Il y a des choses qui émergent. Et qui, parfois j'avais oublié, où il y a des liens qui se font entre différentes choses que je n'ai pas fait en direct, et je me rends compte que Dieu était là. Que Dieu était là. Dans les complications de la vie, mais il était là. Et donc faire souvenir est très important pour discerner la présence de Dieu dans sa vie et la façon dont il a manifesté son amour. On est comme Moïse dans l'Exode 34, on voit Dieu dans le dos. De dos, quand on se retourne. Une deuxième chose que Dieu nous donne pour nous souvenir, c'est les fêtes. Quand Dieu demande à Israël de fêter la Pâque, c'est pour se souvenir de la libération. Nous sommes des oublieux. Parfois, suivant nos personnalités, on est tellement dans le présent qu'on a du mal à se rappeler de ce qu'il y avait avant. Nous sommes dans une culture qui nous dit « Le passé, c'est le passé, tu t'en fous, il n'y a que le présent qui compte. » C'est notre culture aujourd'hui, hein, occidentale. Donc il faut tenir compte de ces choses-là. Mais Dieu nous donne des fêtes pour nous souvenir de son amour manifesté à Israël, à Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et peut-être qu'on devrait tous avoir nos propres fêtes personnelles pour se dire... pour fêter certains événements. Ma vie nouvelle avec le Seigneur a démarré la nuit de samedi à Pâques en 2015. Donc je me souviens de ça. Je ne fais pas des fêtes ce jour-là, je devrais peut-être, mais... J'ai plaisir à m'en rappeler. J'ai plaisir à m'en rappeler. Enfin, l'amour de Dieu, comment peut-on s'entretenir? Eh bien déjà aussi, en se vivant dans la communauté chrétienne. La communauté chrétienne a le rôle important d'incarner et de manifester l'amour de Dieu au monde, mais aussi à ses propres membres. L'Église est un tel miracle qu'on oublie. On oublie ça. Mais essayons de trouver dans la société quelque chose d'équivalent à l'Église, on aurait du mal. Par exemple, ça m'a frappé, c'est Frédéric Le Conin qui m'a rendu sensible à ça. Trouvons une communauté où les gens acceptent de donner de l'argent pour d'autres choses qu'eux-mêmes. Régulièrement. Et parfois 10% ou plus. Et Frédéric disait, mais ça n'existe pas ailleurs. Nous, on oublie à quel point l'Église, et même ce qu'on vit, peut être épatant par rapport à ce qui peut vibrer. Ça m'a beaucoup parlé, ça. Je termine avec un dernier aspect. L'identité que Dieu nous donne, il nous demande de le vivre de façon ouverte. L'identité que Jésus, que le Père nous donne, est une identité ouverte. Elle est ouverte aux autres personnes. Ça s'appelle l'amour du prochain. Hein ? Oui ? Quelle qu'elle soit. D'autres personnes, quelle qu'elle soit. Un prochain qu'on ne choisit pas, c'est lui qui vient, il croise notre chemin et il devient notre prochain. Il n'y a pas de sélection de notre part. Il est ouverte aux étrangers, aux gens qui croient autrement que nous, ou qui ont d'autres idées que nous, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais une identité ouverte. Et qui doit apprendre à s'ouvrir aux autres de plus en plus. Puis aussi ouverte au changement. Dieu a un projet de vie pour nous, et ce projet de vie, forcément, s'il n'amène pas quelques changements au fil du temps, ça fait un peu bizarre. Ici, il s'est passé beaucoup de changements depuis que j'accompagne l'Église, notamment dans l'engagement des uns et des autres. Je trouve ça super. Nous sommes invités à développer tout au long de notre vie et dans les circonstances de nos vies, les différentes circonstances de nos vies, faciles ou difficiles, une identité de fils et de fille du Père Céleste. Les tensions entre l'identité en Christ et le fils du Père Céleste, le fils-fille du Père Céleste, les autres identités sont un processus qui n'aura pas de fin dans cette terre. Il y aura toujours des tensions. Et nous devons développer la meilleure manière de se prendre pour développer cette identité, c'est de développer l'accueil de l'amour. Et ça peut se faire, par exemple, et je termine avec ça, quand mes enfants sont devenus grands et qu'ils ont fait leur propre choix de vie, ils ont commencé à fréquenter, et puis à se marier, à choisir leur... Et moi j'étais là, je me dis, je comprends mieux comment Dieu m'aime, parce que j'aime les enfants. Et parfois ils font des conneries, parfois ils se trompent, parfois ils hésitent, parfois ils... Mais je les aime. Et donc on a aussi des choses qui peuvent nous aider à méditer, sauf que lui, il se débrouille beaucoup mieux que moi, évidemment, mais il y a quelque chose qui est analogue, si vous voulez, et que ça mérite d'être médité, pour comprendre un peu mieux cet amour de Dieu pour nous, inconditionnel, permanent et exigeant. Amen.